Attention, certains propos peuvent heurter les auditeurs les plus sensibles.
Qui êtes-vous?
I am Dracula.
Dracula.
Grey eyes.
Des yeux verts menaçants.
Long face, dark hair.
Des cheveux longs bouclés noirs qui tombaient librement sur les épaules. Un cou de taureau.
Il a sans doute une malformation de la lèvre inférieure.
Un air en général de grande détermination et assez sombre. Il incarne le mal et il incarne aussi celui qui offense Dieu.
Vlad Tepeș, Dracula.
Vlad Tepeș cesse d'être un personnage historique délimité par une époque, une région et un temps. Il prend les traits d'un type universel, le tyran, qui n'écoute que ses propres fantasmes.
Tu es Dracula. Oui, c'est moi.
Prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne Pérez Franchini.
De tous les forcenés et de tous les tyrans dont j'ai eu connaissance sur cette terre et sous l'ample firmament depuis le commencement du monde, il n'y en a pas eu de pire. C'est lui qui sera le sujet de mon chant. Il avait nom Dracula Voivode, et la Valachie fut le pays qu'il avait sous sa gouverne.
Parmi tous les souverains de la Valachie du XVe siècle, je crois que Vlad Tepeș est le seul à qui les moines des grands monastères ne viennent pas demander des fonds pour leurs églises. On ne sait pas pourquoi les moines ne se sont pas présentés à sa cour. Il est toujours délicat d'interpréter le silence des sources, car il peut avoir plusieurs significations. Mais si je devais en choisir une, je dirais qu'ils étaient dans l'expectative. Ils étaient dans l'attente de voir ce qui allait se passer avec ce voïvode, légèrement excentrique.
Vlad, en deçà du conte, épisode 1.
Nous sommes à Pâques, le dimanche de Pâques, la plus grande fête de la chrétienté. Tous les boyards importants du pays sont convoqués au palais princier de Trgoviște pour fêter. Bon. En 1458, c'est tombé en mars. Mars, ça peut être encore froid en Roumanie. Donc, il faut penser que la réunion s'est tenue dans la salle princière, qui était salle à manger, salle de banquet. On peut imaginer que c'était des gros personnages dans leur pelisse de fourrure, gros, gras et ventripotent. Et là a lieu une conversation tout à fait typique, on peut dire, tout à fait intéressante. Vlad leur demande de faire un exercice de mémoire. Combien de princes qui ont régné dans ce pays connaissez-vous, vous vous souvenez d'eux? Tous donnaient des chiffres très importants. Il ne faut pas oublier que la Valachie, qui avait été fondée en 1290, avait eu jusqu'à Vlad une douzaine de princes. C'était énorme. Et donc, Vlad lui a dit, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a eu tellement de changements de princes? Et bon, comme chacun hésitait à répondre, il a dit, la cause sont vos éternelles disputes et votre incapacité de vous entendre. Vous êtes des traîtres. Et hop, il les a tous décapité ou empalé.
C'est l'histoire de Vlad Tepeș, Kazakh le Bey, l'empaleur. Une histoire où les noms et les formes se superposent. Une traversée aux limites de ce qui peut se dire, mais ne peut pas s'entendre, et où la littérature l'emporte peut-être sur l'histoire. C'est l'histoire de Vlad Tepeș, le voïvode, le prince de Valachie, craint sur les deux rives du Danube. L'histoire de la légende noire des Saxons de Transylvanie. C'est l'histoire de Vlad Draculea, Dracula, le vrai, le fils de Dracul.
Mais que sait-on de celui qui portait le nom du diable il y a plus de 500 ans, si ce n'est justement l'empreinte sanglante qu'il a laissée dans la longue histoire de la violence? Vlad l'empaleur, celui qui empale, qui tue, qui est-il? C'est l'histoire vraie du prince Dracula.
Nous avons une très bonne description
Matei Kazaku.
Par un évêque dalmate qui l'a vu. Il a dit, pas très grande stature, avec un cou de taureau, des cheveux longs bouclés noirs qui tombaient librement sur les épaules, des yeux verts menaçants et un air en général de grande détermination et assez sombre. C'était un des personnages, en tout cas avec Ceausescu, j'ai toujours dit, c'est le personnage roumain le plus connu au monde.
You can look at him
Adrian Georg.
As a person like me.
Imaginez quelqu'un à peu près comme moi.
70.
Environ 1m70.
A guy who doesn't like to
quelqu'un qui n'aime pas partager ses émotions.
Not at least not the positive
ones. En tout cas pas ses émotions positives.
But he's
a mais guy c'est quelqu'un qui se met en colère très très facilement.
Eram copil la școală.
Matei Petrisor.
Și la școală ne-a impresionat pe mine, cel puțin m-a impresionat.
Je me souviens qu'enfant, à l'école, nous étions très impressionnés.
Am reușit să-l înspăimânte pe Mahomet.
Impressionné par exemple par la nuit où Vlad l'Empaleur a réussi à effrayer le sultan Mehmet avec seulement 300 soldats, comme les 300 Spartiates.
100 de soldați s-a îmbrăcat în haine turcești.
Peut-être qu'ils n'étaient pas 300, mais une centaine, habillés à la turque, et ils ont attaqué le camp. Les Turcs pensaient avoir été trahis et étaient très effrayés. Je me souviens, ça m'avait marqué. J'ai pensé que ça devait être un souverain très intelligent. Et Vlad l'Empaleur, ou le prince Kazakh, comme disent les Turcs, est vraiment resté dans les mémoires. C'est assez impressionnant. Vous savez, dans chaque pays, il y a un méchant que les mères utilisent pour faire peur aux enfants, pour qu'ils ne sortent pas de la maison en courant, qu'ils ne se fassent pas écraser par une voiture. Elles leur font peur avec un personnage. Et si on dit, fais attention en sortant où le loup va venir et il va te manger. Eh bien, en Turquie, 500 ans après sa mort, les mères disent toujours aux enfants, ne fais pas de bêtises, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou sinon, l'empaleur, le prince diabolique, Dracula, il va venir et t'emporter en Valachie.
Dracula has all the traces of a villain.
Dracula porte tous les traits du vilain. Il est même représenté en Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, qui juge Jésus-Christ. On le peint avec des lèvres larges qui laissent apparaître ses dents. On peut voir son nez de cochon et ses yeux sont rougis. Et en montrant ses dents, il se montre irrespectueux envers Jésus.
Les récits allemands qui sont apparus à partir de 1463 et qui ont circulé dans toute l'Europe le comparent au plus grand tyran de l'Antiquité, Néron, Dioclétien, Caligula. C'était des petites brochures de 4 à 6 feuillets qui utilisaient les images avec le texte.
Les histoires allemandes sur Dracula étaient le succès de leur temps. Elles se vendaient très bien dans les grandes villes d'Allemagne, comme Nuremberg, Hambourg, Leipzig ou encore Strasbourg.
Albert Weber.
Il y avait des illustrations représentant les brutalités de Vlad, ce qui semble avoir contribué à leur succès commercial. Nous sommes au moment même où se développe l'imprimerie. On adopte très vite. Même en Italie, on voit très vite à Rome des presses imprimées, mais aussi en Hongrie, à Vienne. Et d'une certaine manière, la guerre avec l'Empire ottoman a beaucoup contribué à l'expansion de cette technologie, car il y avait une demande d'information dans les grandes villes sur ce qui se passait dans le sud-est. Et si vous faites le lien avec Vlad, il y a une période de grands changements politiques dans le sud-est du continent. Et toute une population instruite, en particulier ceux qui étaient impliqués dans des activités commerciales, comme à Nuremberg, et qui vendaient leurs produits en Europe, voulaient savoir ce qu'il s'y passait. Et donc ils ont investi pour avoir cette connaissance. Il y avait un marché pour les histoires sur les Turcs et sur l'Orient. Il y avait un genre entier de ce qu'on appelait les imprimés turcs. Vous savez, certains imprimés allemands qui ne parlaient que de l'expansion des Ottomans. Ils racontaient les batailles, les massacres, et c'était très populaire. Et les imprimeurs ont vu cette tendance. Ils l'ont affiné grâce à de nouveaux matériaux. Il semble que Vlad ait été l'une des contributions les plus novatrices ou les plus originales à ce genre. On parle quand même du récit d'un souverain chrétien qui massacre d'autres chrétiens.
Les rapports écrits venant des villes saxons de la Transylvanie étaient toujours garnis avec des gravures en bois.
Peter Mario Krauter.
En général, un portrait de Vlad Tepes. Mais il y a aussi des rapports dont la gravure en bois représente un Turc. Alors vraiment déguisé comme un Turc avec un turban et probablement même avec une semi-lune pour indiquer que c'est un musulman. Et c'est vraiment intéressant que déjà très tôt, l'idée de ces actions était mêlée avec une autre religion et mêlée aussi avec toute cette zone européenne comme très spéciale, très cruelle. Alors, il est devenu, chez nous, ici, à l'ouest de l'Europe, comme le prototype du tyran oriental.
Dracula descendait de la famille des princes de Valachie. Il était fils légitime d'un prince qui s'appelait Vlad et qui avait été surnommé Dracula, le diable. Le diable parce que, non pas parce qu'il était démoniaque, mais parce qu'il avait été promu chevalier d'un ordre hongrois qui s'appelait l'Ordre du Dragon, qui était donc un ordre de cavalerie chrétien fondé par le roi Sigismond de Luxembourg, devenu en 1410 empereur romain, et qui avait comme but la défense du roi. Et son emblème était une croix écrasant un dragon, qui était le symbole du diable. Depuis que la Bible nous dit que le diable transformé en serpent a été faufilé au paradis, le serpent, et donc le dragon, qui est un serpent amélioré, symbolisait le diable.
On est certain que Vlad III avait deux surnoms différents de son vivant. Très probablement dans les années 1460 ou au plus tard dans les années 1470. Et on sait grâce à un document valaque qu'il est le premier à avoir importé l'empalement dans la région, au sud de la Transylvanie, et qu'il l'a utilisé contre les Saxons. Et on le sait indirectement grâce aux chroniques ottomanes. Plusieurs chroniques anonymes parlent d'un certain Tsepelouche, le petit empaleur. Tsepelouche est le diminutif de Tsepesh. Donc si vous avez un petit Tsepesh, qui est Tsepelouche, vous avez aussi un grand Tsepesh, qui veut dire l'empaleur ou kazekle en ottoman. Et son second sobriquet était Dracula, ou plutôt, non pas Dracula, mais Draculea dans sa forme roumaine. Le problème est que le drac, qui veut dire dragon, a deux significations. L'un, c'est le dragon, l'autre, c'est le diable. Alors, quelle est la véritable étymologie? Est-il dragon ou diable?
Donc, Dracula, dragon, et le diable.
Pierre Monet.
Ce qui fait, par exemple, que le film allemand Nosferatu, il ne s'appelle pas Dracula. C'est l'histoire de Dracula, mais il s'appelle Nosferatu. Or, en roumain, Nosferatu, ça veut dire l'innommable. Donc, le titre du film choisit de contourner le problème de la confusion sémantique entre diable et Dracula. D'ailleurs, reprenant une littérature théologique du Moyen-Âge qui, lorsqu'elle parle du diable, se refuse à lui donner un nom. Hein. C'est celui qui n'a pas de nom, qui ne mérite même pas d'avoir un nom.
Il était connu dans toute l'Europe. Et son portrait, qui était toujours utilisé pour représenter Vlad III, se trouve sur plusieurs tableaux. Par exemple, sur le tableau d'une crucifixion de Saint-André, on dit que la nuit de Saint-André, il y a quelques hommes en Roumanie, on les appelle Vulva Lupilor, la gloire des loups, qui, dans cette nuit, font des rencontres avec les loups pour, oui, discuter sur des choses entre les humains et les animaux.
Certains affectionnent les monstres plus que d'autres. L'archiduc Ferdinand II du Tyrol les collectionne. Aujourd'hui encore, à Ambras, on peut visiter son cabinet d'arts et de merveilles. C'est là qu'il expose, en 1580, une étrange collection de personnages inhabituels, malades, déformés, monstrueux, mais authentiques. Ce sont les portraits en peinture de ceux qui sondent les abîmes de l'existence humaine. On y croise un homme recouvert de poils, un autre déformé, un autre encore géant et placé à côté d'un nain. Un dernier, noble chevalier de Hongrie, pose de profil. Un pieu traverse son crâne, du sang gicle sur son visage. Il semble mort et vivant à la fois. Face à lui, le regard impassible, le portrait de Vlad Tsepech. Vlad porte un manteau pourpre. Une coiffe princière, ornée de diamants, cerne son visage fin. Les yeux sont exorbités. Ce portrait d'Ambras, monstre ultime de cette série de l'étrange, c'est le portrait à partir duquel tous les autres ont été conçus. Et ce regard impassible que porte Dracula, c'est l'énigme dessinée de Vlad l'Empaleur.
Vlad Tsepech est un des voyevodes roumains, une des personnalités de l'époque venant de l'Europe de l'Est qui a été représentée le plus tôt. Le portrait avait fait de grands progrès et il est représenté à la fois en tant que protagoniste du portrait mais aussi en situation. Ce n'est pas un visage mythique ou qui change selon les époques. On connaît véritablement son visage. Il a des caractéristiques assez typiques, il a sans doute une malformation de la lèvre inférieure. Un historien, Ioan Bogdan, avait publié les récits russes sur l'Empaleur et il pensait avoir détecté une grave maladie mentale et une nature dégénérée.
Există câteodată o ironie istorică.
Parfois l'histoire est ironique.
Pentru că
l'année précédant la publication de Dracula par Bram Stoker, un historien, Ioan Bogdan, a publié une monographie. Et cette première monographie historique sur Vlad Tsepech, jamais publiée en Roumanie, le dépeint comme un monstre sanguinaire. De son côté, Bram Stoker ne donne aucune explication à la monstruosité de Dracula. Dracula est un monstre, point. Mais quand on parle de monstruosité, l'un des problèmes centraux à la fois dans l'analyse de Dracula et dans celle de Vlad Tsepech est celle de la racine de cette monstruosité, la racine de la violence. Pour cet historien, Ioan Bogdan, l'explication est très simple. Pour lui, Vlad l'Empaleur est sanglant pour des raisons d'ordre pathologique.
Ils incarnent le mal de façon différente. Je ne pense pas que le livre de Bram Stoker aurait eu un tel succès si il avait été question d'un Dracula empaleur.
Patrick Avran.
L'empaleur, Vlad l'empaleur, il y a de l'horreur à décrire ses actes. Quand on lit les récits qui sont faits de ces empalements, c'est quand même un petit peu difficile à supporter à certains moments, parce qu'on touche à quelque chose d'irreprésentable, mais qui est représenté, qui existe. Et d'ailleurs, il y a, dans les récits qui sont faits, j'avais souligné qu'une des personnes qui racontait ça disait que c'était quelque chose dont on n'ose même pas parler, hein, à propos de l'empalement. Et il y a le mal, mais là c'est un mal, je dirais, le mal du côté de l'horreur, du côté de ce que nous avons du mal à supporter comme représentation. Le mal décrit par Bram Stoker, c'est pas du tout ça. Il a eu un succès extraordinaire. C'est-à-dire que le vampire, on sait très bien que le vampire, bon, ça existe peut-être un peu, mais c'est quand même extrêmement rare. On parle de... C'est quand même du côté du fantasme. Et il y a de la représentation possible dans le livre de Bram Stoker, parce que il est, je dirais, du côté de ce que l'on peut imaginer. Ces deux figures peut-être du mal, mais deux figures qui n'ont pas la même tonalité. L'une est du côté de l'horreur du réel, et l'autre est du côté de l'angoisse fantasmatique.
En principe, c'est très simple. Le vampire Dracula, comme nous le connaissons, de la littérature ou du cinéma, ça c'est une invention littéraire de Bram Stoker qui aujourd'hui est l'idée centrale du vampire en Europe occidentale. Alors quelqu'un avec des dents pointées qui morde les gens pour sucer du sang. Le vampire dans la culture populaire sud-est européenne ne morde pas, ne suce pas, et en plus il ne vient pas seulement dans la nuit. Il est incapable de faire le passage dans un autre monde. Il ne peut pas le faire. C'est pas par volonté, c'est simplement parce que quelque chose s'est passé dans sa vie qui maintenant évite qu'il puisse faire la transformation. Alors Bram Stoker a utilisé des éléments de la croyance populaire et de l'histoire pour créer un vampire. Donc moi, je viens de la croyance populaire, mais quand je trouvais le conte Dracula de Vlad Tepes, le conte Dracula de Bram Stoker, je me suis aussi intéressé à Vlad Tepes, la figure historique derrière la figure littéraire. Je suis absolument sûr qu'il n'y a pas de lien. Oui, mais vous avez raison, quand on le lit et quand on sait les choses, on se dit vraiment « oh là là », n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre comment les choses de temps en temps se mêlent. Ça ressemble un peu à toutes ces théories de conspiration qui existent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi quelqu'un est devenu, dans la mémoire publique, le monstre parfait?
I am Dracula.
Jonathan Harker. Chers messieurs, vous êtes les bienvenus à mon château.
Bram Stoker, Dracula.
Pour Bram Stoker, Dracula est le symbole d'un monde irrationnel, d'un monde arriéré, qui en quelque sorte conserve quelque chose du passé de l'Europe occidentale. Pensez à l'Orient Express. Dracula et l'Orient Express sont contemporains. Ce sont deux témoignages de la fascination pour une Europe irrationnelle, magique. Dracula fait appel à un souvenir lointain qui est violent, primitif, comme un miroir du passé de l'Occident. Si on pense maintenant à l'empaleur, il faut dire que sa violence est exceptionnelle par rapport aux normes de l'époque. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est l'obsession tout à fait inouïe de Tepes pour le décompte des victimes de sa violence.
Il était obsessionnel et paranoïaque, ça c'est certain. Paranoïaque parce qu'il se croyait entouré d'ennemis, alors qu'il s'était fait lui-même ses ennemis par son comportement. Il rompait complètement avec la tradition politique qui s'était instaurée en Valachie depuis quelque temps, qui était une politique d'arrangement avec une puissance envahissante et beaucoup plus grande que celle de la Valachie, avec les Turcs ottomans. Il avait subi des traumatismes sévères, c'est certain. Surtout sa manie de ne pas accepter le débat en contradictoire, de ne supporter aucune résistance, aucune différence d'idée, de pensée. Ça devait donc être le résultat d'un processus de revanche contre une situation antérieure où il était le jouet de gens plus forts que lui, plus puissants que lui, qui lui imposaient donc cette forme d'humiliation parce qu'il était faible et il était donc jeune.
C'est un homme, Vlad Tepes, qui a vécu dans la crainte et aussi dans la réalisation constante de la trahison. Il ne pouvait pas y avoir d'alliés qui soient fiables, y compris les plus proches, y compris ses cousins, ses frères. Il y avait toujours le risque que quelqu'un vous prenne par derrière. Et ça a organisé sa vie. C'est à la fois quelque chose qui est de trahison interne, c'est-à-dire les jeux d'alliance. Mais ces jeux d'alliance, ils se faisaient aussi parce qu'il y avait nécessité de faire alliance avec l'un ou l'autre des empires qui étaient ennemis entre eux et qui entouraient. C'était essentiellement l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. On peut dire qu'à chaque fois, l'un faisant alliance avec l'autre était confronté à son frère qui faisait alliance avec l'autre empire. Et cette trahison entre frères, elle était liée aussi aux affaires politiques, de nécessité d'être soutenu par l'un ou l'autre des empires qui était présent. Et la trahison, elle a organisé la vie de Vlad Tepes. Elle a organisé la vie, elle a organisé l'insécurité, et on peut dire qu'il a vécu de cela, et il en est mort. C'est le drame de cette histoire.
Lorsqu'on écrivait l'an 1462, Dracula marcha sur le Grand Nicopoli, où il tua aussi, ainsi que nous l'avons appris, dans les 25 000 chrétiens et païens de toutes sortes. Quelle désolation ce fut, et des cris qui vous terrifiaient. Toute la contrée, en long et en large, qui s'appelait la Bulgarie, fut entièrement incendiée. Les gens qu'il trouva là-bas furent tous tués. Calculez et apprenez. En tout, 25 000, à part ceux qui, dans le feu, furent brûlés de façon terrible par le monstre perfide. Vieux et jeunes, hommes et femmes, il les fit tous décapiter et ficher sur des pales. Des envoyés de Siebenbürgen ont vu, dans la Valachie, des gens qu'il avait empalés et étranglés en une rangée, qui pendaient donc innombrables à leurs pales, telle une grande forêt.
Il faut déjà avoir à l'esprit que les Ottomans pratiquaient l'empalement, donc ils connaissaient.
Dan Johan Mureșan.
Et donc Vlad voulait les surpasser dans cet exercice de la violence. Et la forêt qui est décrite par les témoins oculaires était donc constituée de plusieurs milliers de pales, faits sur mesure, si on peut dire, avec des corps qui étaient donc des cadavres en décomposition, avec donc aussi l'odeur atroce qu'ils pouvaient dégager. Et donc c'est, si vous voulez, à la fois une arme visuelle et biologique. Parce qu'en même temps, on sait que des maladies avaient commencé à se diffuser, et notamment peut-être des maladies dues aux cadavres. J'ai pas trop l'imaginaire des films des horreurs, mais ça devait effectivement être un film d'horreur en vie réelle.
Il y a quelque chose qui est insupportable. Hein. On peut être à certains moments que pris de haut le cœur en lisant ou en entendant, si c'est raconté, les histoires absolument odieuses d'empalement. Et en plus, non seulement il empalait, mais il faisait des forêts d'empalement. Et moi, ça m'a fait penser à un moment à un collectionneur de papillons. Hein. C'est-à-dire que Vlad Tepes était quelqu'un qui piquait les gens et puis après, il se promenait comme un entomologiste se promènerait dans une boîte de papillons. Enfin, quelque chose d'absolument... Et quand je dis ça, ça permet de faire une représentation. Hein. Mettre des mots comme cela sur une histoire comme cela, parler de papillons, c'est plus facile que parler de corps transpercés, de femmes transpercées, de femmes attendant des enfants transpercés, de femmes avec leurs bébés. Il y a quelque chose d'absolument insupportable.
C'était un personnage qui ne rigolait absolument pas avec sa fonction et son pouvoir. Il a des initiatives loufoques qui étonnent et qui répandent la terreur parce qu'elles sont inattendues, il n'est pas rationnel. Ce n'est pas quelqu'un de rationnel. Il avait une soif totale de domination. Il avait une confiance énorme dans ses capacités de dominer le pays. Et surtout, il était réformiste par la force. C'était sa volonté unique qui devait s'imposer. Il ne pardonnait pas. On ne connaît pas de cas de pardon. Ce personnage était absolument imperméable au sentiment, et s'il avait décidé de punir quelqu'un, ben c'en était fait de lui.
Yo pedapsa.
C'est une punition qui, au milieu du XVe siècle, est pratiquée par tout le monde, y compris par les Occidentaux, les musulmans, les chrétiens, tout le monde. Au XVIe siècle, on l'associe peu à peu à la barbarie. L'empalement devient une pratique de non-européens. Ainsi, l'image de Vlad Tepes et de la Valachie évolue. Ils ont commencé à être perçus comme des semi-barbares. Mais c'est sans aucun doute une punition dégradante, extrêmement douloureuse et humiliante. D'abord parce qu'après l'exécution, le corps reste là pour être visible. Pour être vu par tout le monde. En comparaison, la décapitation est une punition légère, destinée aux nobles.
D'après ce que l'on sait, l'empalement était pratiqué aussi en Hongrie, avant lui, et dans l'Empire ottoman. Et c'était réservé aux voleurs de grand chemin, aux violeurs et aux gens qui faisaient des rapines épouvantables, donc aux bandits en général, mais pas aux nobles. C'est ça qui est intéressant. Vlad a un peu démocratisé la punition, là, il a étendu aussi aux nobles, même si les récits allemands et les autres insistent surtout sur le fait que c'était surtout des soldats, des paysans, des bourgeois.
Impaling means that a person was thrown slowly in a stick.
Empaler signifie que l'on enfonçait lentement un bâton dans une personne, mais qu'elle n'était pas tuée immédiatement.
To manifest themselves.
Les victimes devaient rester en vie pendant un certain temps.
To inspire,
afin que cela suscite de l'effroi chez ceux qui observaient ce spectacle.
Le personnage était couché par terre, attaché, bras et jambes écartés, Le pal était fixé dans son anus, après quoi le tout était soulevé et le pal était enfoncé dans la terre et le personnage, par son propre poids, s'enfonçait dans le pal. Ça, c'est du moins ce qu'on a comme image.
The impalement was a display of power.
L'empalement était une démonstration du pouvoir de l'État et du souverain. C'était un exemple destiné à faire peur. Une manière de dire, regardez bien ce que nous faisons. Regardez comme il souffre sur le pal. Il supplie pour de l'eau. Il supplie pour qu'on le libère par la mort.
Il a, paraît-il, même inventé une façon nouvelle d'empaler les gens qui explique pourquoi les victimes ne mouraient pas immédiatement. Parce que, bon, je ne sais pas comment vous imaginez quelqu'un qui reçoit un pal pointu dans le ventre ou introduit par l'intestin puisse résister plus de, je sais pas moi, une heure, parce que la pointe, là, finit par toucher les poumons, le cœur, on meurt très vite. Or, les victimes de Dracula, paraît-il, tenaient jusqu'à 2-3 jours. Et finalement, ce n'était pas tellement le pal qui les tuait, mais les oiseaux qui le picoraient les yeux, les mouches, les abeilles, etc. Et donc, force est de se dire qu'il avait dû retourner la question comme un vrai homme de science, c'est-à-dire qu'il a enfoncé la partie pointue dans le sol et il a laissé la partie arrondie en haut, et celle-ci étant introduite dans le derrière des victimes, éviter les organes vitaux et passer tout doucement jusque dans la gorge ou dans la bouche. Et le résultat était que les malheureux survivaient quelques jours. Donc c'était pour lui qui aimait bien festoyer sous la forêt de pales, comme le décrivent les contemporains, une occasion de trinquer à leur santé, etc. Bon, c'est très cynique, mais c'est comme ça.
Ce qui m'impressionne quand on regarde la violence draculéenne, c'est sa représentativité. On dirait qu'elle est presque théâtrale. C'est une violence réelle, mais qui est mise en scène avec beaucoup de raffinement. La cruauté de Dracula, c'est une cruauté raffinée. Vlad est toujours en train de mettre à l'épreuve. Un exemple avec donc l'accueil d'un ambassadeur, je pense, du roi de Hongrie, qui est accueilli dans une forêt de pales et qui est censé en fait réagir calmement pour ne pas affronter la colère un peu irrationnelle de Vlad. En fait, c'est une mise en scène parce qu'il a un message à transmettre. À chaque fois, chaque histoire se termine par un message que les ambassadeurs ottomans doivent envoyer au sultan. Allez et dites à votre sultan que ça et ça et ça. C'est toujours des messages. Elle avait aussi cette fonction politique de mettre en scène, d'exprimer la grandeur, le caractère redoutable d'une forme de souveraineté. L'État détient le monopole de la violence. En fait, c'est ça que Vlad veut affirmer par ses mises en scène.
Il fit griller certains, d'autres furent brûlés. Certains furent bouillis, d'autres écorchés, d'autres furent pendus. D'autres furent passés à des pierres à aiguiser, d'autres furent noyés dans des latrines infectes. D'autres, nus, furent pendus par les cheveux, d'autres suspendus par les pieds avec des chaînes en fer. Les gens qui se trouvaient dans cette situation, ils leur frappaient les yeux, le nez et la bouche et leurs parties intimes. Ils les faisaient aussi pendre et leur faisaient jeter des pierres jusqu'à ce qu'ils perdent la vie.
We go?
Where to?
The torture instruments.
Yes.
Instrumentul de aici este, a fost conceput și are, este.
Cet instrument de torture a été conçu et est exposé ici, au château.
Despicătorul genunchilor.
Il s'agit d'un casse-genou.
Pe genunchi, în poziția
On le fixe sur le genou en position assise et il est tenu par une manivelă.
Era extrem de dureros pentru
C'est
că
extrêmement douloureux car dès que l'on s'assoit, les muscles se détendent et alors on commence à serrer.
Intrau în contracție. Tu nu vrei să te miști.
Vous ne pouvez pas bouger.
Vrei să stai nemișcat,
mais la douleur est très forte car au moment où la prise se desserre,
în care mușchiul se relaxa,
les muscles bougent.
Fără să vrei, trebuia să
même sans le vouloir.
Și atunci, toată
durerea et toute la douleur entre dans le cerveau comme une impulsion.
Ca un impuls. Aici este aceeași metodă.
Voici maintenant une méthode similaire.
Doar că nu era cu,
sauf que ce n'est pas avec l'instrument qui va dans les genoux.
Care îți intra țepii în genunchi și în
mușchi. Mais c'est tout aussi douloureux.
Dar și asta era la fel de dureroasă. În momentul în care stăteai.
On vous fixe et vous restez debout pendant une longue période. Un jour, deux jours.
După două ore.
Déjà après deux heures, la position ne vous permet plus de bouger sans douleur.
Și în momentul în care vrei să te miști.
Et dès que vous voulez bouger, les muscles se contractent et la douleur arrive.
Practic, mușchiul nu
en gros, le muscle ne peut tout simplement plus se détendre et finit par se déchirer en morceaux.
Tortura cu apă nu e ca metoda.
Voici maintenant la torture par l'eau, qui n'est pas comme la méthode de la goutte chinoise. En fait, la noyade est un outil qui consiste à attacher les pieds et les mains à des sangles métalliques. Et au milieu, un outil appuie sur la colonne vertébrale.
Presa coloana vertebrală, se turna apă în victimă prin gură.
De l'eau est versée dans la victime par la bouche jusqu'à ce qu'elle gonfle et lui brise le dos.
Spatele și coloana vertebrală. Să răspund la întrebarea dumneavoastră.
Il y a plusieurs autres méthodes de torture. Vous savez, Vlad l'Empaleur est resté très célèbre. Une des histoires les plus connues, que les Roumains connaissent encore, c'est celle de la coupe d'or. Vlad marchait dans la forêt et à un moment donné, il arrive près d'un puits. Il demande à boire de l'eau, mais pas dans un verre, pas dans une tasse, dans une coupe d'or. Et il décide de la laisser là. Et le commandant lui dit, « Votre Majesté, on va vous la voler ?» Et Vlad répond que non, que ce n'est pas possible dans son pays, en Valachie, qu'une telle chose se produise. Et il ordonne alors qu'on apporte sa coupe d'or et qu'on la mette là. Et que si quelqu'un volait sa coupe d'or, eh bien que cette personne soit cuite et empalée. Personne n'a volé la coupe, même après sa mort. Personne, de peur que Vlad l'Empaleur ne revienne et ne l'empale. Je pense que faire des recherches sur Vlad Tepes est l'un des plus gros défis qui existent pour un médiéviste.
Parce qu'une grande partie des sources ont été perdues. 95 à 99% des documents roumains ont sans doute été détruits au fil des siècles et des incursions turques ou des guerres civiles. Et en même temps, Vlad est devenu une légende de son vivant. Nous avons des histoires concernant Vlad dans 17 langues différentes, ce qui est assez exceptionnel. Il y a des sources en turc ancien, en ottoman, en perse, en arabe, en grec, en italien, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en roumain, en russe, en serbe, même en hongrois. On lui a donc accordé beaucoup d'attention. Et je crois que ce qui a intéressé ses contemporains avant tout, ce sont les contradictions morales que l'on a attribuées à son règne.
Il y a quelque chose de l'inaccessibilité, il me semble aussi, parce que on ne connaît cet homme que par ses actes, et ses actes y sont strictement liés à sa position de prince, ayant du mal à régner, pour le moins, sur sa principauté. Hein. Et c'est uniquement cela qui fait que cet homme a une stature. Il est inaccessible parce qu'il n'est rien d'autre qu'une, on pourrait dire, qu'une statue. Tantôt le libérateur est celui qui a fondé un pays qui est à l'origine de la Roumanie, tantôt comme l'incarnation du mal absolu, mais l'homme lui-même... Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas trouvé dans cette histoire. Hein. On ne connaît rien de sa vie, sinon un certain nombre d'actes.
The main sources are propagandistic.
Les sources principales sont partisanes. Ce sont des récits allemands qui le dépeignent comme l'antéchrist, commettant une sorte de génocide, dirions-nous aujourd'hui, tuant des dizaines de milliers de personnes. Mais nous avons aussi des chroniques qui le décrivent en héros parce qu'il a combattu les Ottomans. Mais cette image n'est pas non plus très exacte. Il a été l'allié des Ottomans pendant de nombreuses années parce qu'il avait beaucoup d'ennemis parmi les puissances chrétiennes. Et il a cherché l'aide des Ottomans, qui voulaient sécuriser la région pour leurs intérêts. Il leur a même payé un tribut. Et puis nous avons aussi des chroniques ottomanes qui le décrivent après sa guerre contre le sultan Mehmed le Conquérant. Cet épisode a été un exemple pour les Ottomans, ou comment un allié trahit le sultan. Les Ottomans avaient construit tout un idéal autour de la Pax Ottomana, la paix ottomane, qui apporterait la tolérance pour les chrétiens et les territoires conquis. Vlad est alors décrit comme une sorte de criminel, un traître à cet ordre de paix. Et son image est assez négative dans leurs chroniques. Et puis on a aussi l'exemple des chroniques byzantines. On a presque tout le spectre du bien et du mal, jusqu'au très grand mal. C'est ce qui a fasciné, je crois, les chroniqueurs contemporains.
Un de ces récits, qui est très répandu, raconte l'histoire du prêtre avec lequel Dracula déjeune et qui enseigne donc la pauvreté, le fait que les hommes ne doivent pas confisquer les biens des autres, etc. Et Dracula le surprend en prenant un morceau de pain de sa propre assiette. Et il lui dit, voilà, toi tu prêches une chose et tu fais une autre, et il l'empale. Or, ceci se passait à table. La table, pour les chrétiens pratiquants, ce n'est pas un moment quelconque, c'est le moment imité d'après la scène de Jésus avec les apôtres. C'est là où on fait la prière et où on ne peut pas faire des sacrifices sanglants. Donc, tuer alors qu'on est à table, comme il l'avait fait avec les boyards, c'est vraiment offenser Dieu dans une dimension très importante. Pareillement, tuer les mendiants et les nécessiteux. Dracula dit aux mendiants, si vous voulez être content, laissez-moi faire. Il les invite, il les enferme dans une grange et il met le feu en disant, J'ai voulu que tout le monde soit heureux et riche dans mon pays. Ceux-ci étaient pauvres, comme ça je les ai transformés en martyrs. Donc il a l'outrecuidance de se proclamer faiseur de martyrs.
La récupération du corps après la mort par la famille est une préoccupation constante tout au long de cette période, car il faut assurer un enterrement chrétien. Le plus grand péril, lorsque par exemple quelqu'un meurt sur le champ de bataille, c'est que le corps ne soit pas retrouvé puis enterré correctement. Il y a même une chronique roumaine qui mentionne le pacte qu'un seigneur fait avec un noble pour s'assurer que chacun prenne soin du corps de l'autre si l'un d'eux venait à mourir dans une bataille. Le risque est l'absence de soutien liturgique qui peut aider au salut, car la tombe est le centre des pratiques liturgiques. Les prières aident l'âme du défunt à obtenir le salut et à passer dans l'autre monde.
Cette pratique de Vlad remettait en question le sort final de toutes ces victimes. C'était la privation d'un lieu d'enterrement chrétien, comme on insiste beaucoup à l'époque, qui est absolument nécessaire pour s'assurer de la paix de l'âme, du repos de l'âme, non seulement du corps, et donc aussi de son salut. Et d'ailleurs, on a une scène où Vlad invite deux moines latins qui regardent une forêt macabre, et l'un des deux moines dit « ce sont des martyrs ». Et pour cette remarque, il va être empalé lui-même pour compter dans le nombre des martyrs, dit l'histoire. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. En revanche, l'autre, il dit autre chose qui est intéressant et qui est tout à fait validé par Vlad, ce qui veut dire que ce moine nous donne la vision qui convenait à Vlad. Et qu'est-ce qu'il dit ce moine? Il dit « toi, Seigneur, tu es un juge installé par Dieu pour punir ceux qui font le mal et pour récompenser ceux qui font le bien. » Vlad adopte une vision d'un Dieu juge suprême qui installe des grands seigneurs pour exercer de façon équitable et en fait impartiale, c'est-à-dire impitoyable. On voit que Vlad, malgré ce qu'on lui peut attribuer de diabolique, il avait quand même une conscience de la justice divine qu'il essayait, on va dire, plutôt mal, mais qu'il essayait quand même d'appliquer.
Cette sévérité a donné au peuple le sentiment immédiat que la justice et la sécurité avaient éclaté dans le pays. La nouvelle des terribles actes de Vlad Voda s'est répandue comme une traînée de poudre. Les voisins, les métis, ont vu que ce n'était pas un homme à prendre au dépourvu. Et les opprimés ont trouvé dans la main de Dieu un refuge, bien qu'elle se soit montrée peu aimable pour le sang de ses ennemis et du pays, et peu aimable pour ceux qui sont tombés dans l'erreur. Le peuple et l'armée l'aimaient, mais la terreur le précédait. Voyez qu'il n'était pas orgueilleux, il ne savait pas ce que l'orgueil signifiait. Son jugement était juste, et sa condamnation dure et impitoyable.
Dans ces histoires de Vlad Voda Tsepech, le folkloriste et auteur de contes Petri Spirescu recueille les récits de Vlad l'Empaleur. Sept petites nouvelles et autant de dialogues entre le prince et des marchands, des pauvres, des nobles, des pieux. « Il était une fois un temps très très juste », écrit Spirescu, « un temps que les menteurs et les voleurs ne pouvaient pas supporter. » Comme dans un conte, Dracula laisse des trésors dans des ruelles sombres, et personne n'ose y toucher. Et à la fin de chaque petite histoire, il tue. En lisant les descriptions de ce faiseur de martyrs, on se demande si Vlad Tsepech a vraiment existé. Et si tout cela n'était qu'une fable pour effrayer les princes et les enfants.
Pour moi, c'est comme des contes qui ne seraient pas passés au stade de contes. C'est quelque chose de brut. C'est l'histoire de Barbe Bleue, mais sans que ce soit devenu un conte. Il y a du réel brut. Hein. Il y a du réel dans l'empalement, qui est la vision horrible que nous avons du mal à supporter et que nous, à juste titre. Hein. Et c'est cela qui est passé à travers des textes. Et à travers des textes qui sont relativement insoutenables à lire. Le conte, quand on peut raconter une histoire à un enfant, mais pas uniquement à un enfant, mais quand on peut raconter une histoire à la veillée, c'était ça les contes. Et là, il me semble qu'on est en deçà du conte. Un conte, c'est ce qui permet de faire passer un certain nombre de choses de façon supportable, de façon à ce que ça puisse faire partie de nos rêves et pas de nos cauchemars. Donc, faire un roman de l'histoire de Tepeche, se faire un conte, ça peut être envisageable, mais ça nécessiterait à ce moment-là de beaucoup gommer hein, de tout ce que l'on sait.
Prince Dracula, une histoire vraie, premier épisode, Vlad, en deçà du conte. Avec les historiens Matei Kazaku, Marianne Coman, Dan-Johan Mureșan, Traian Sandu et Pierre Monet. Avec les membres du Corpus Draculanum, Adrian Georg et Albert Weber. Peter Mario Krauter, philologue. Patrick Avran, psychanalyste. Et Matei Petrisor, guide touristique. Texte de Michel Beheim et de Petre Ispirescu. Lu par Sarah Chaumette. Doublage. Pascaline Bonnet. Prudence Castelot. Olivier Martineau. Et Andrea Schiffer. Remerciements à Bogdan Dragulescu et au château de Bran. Prise de son. Lucien Lefebvre, Yvan Charby, Virginie Lorda et Hervé Dubreuil. Mixage. Valentin Azanzelinski. Documentation, Annie Signoret et Antoine Villoz. Coordination, Christine Bernard, avec la collaboration de Anna Felpin. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Anne Pérez Franchini.